Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manirakiza, la présentation de cette édition du jeudi 22 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. Au moins 20 civils tués, des dizaines de milliers déplacés dans deux violents combats entre rebelles et forces gouvernementales dans le nord-est de l'Éthiopie. À Madagascar, la justice et le gouvernement affirment qu'un projet d'assassinat du président André Ajoël a été déjoué et 6 personnes arrêtées, dont 2 Français. La Chine répond sèchement à la demande de l'OMS de reprendre son enquête sur l'origine du coronavirus. Aux États-Unis, le président Joe Biden exprime sa frustration face au ralentissement du taux de vaccination contre le Covid-19. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au moins 20 civils ont été tués, des dizaines de milliers ont été déplacés dans de violents combats entre rebelles et forces gouvernementales dans la région Afar, limitrophe du Tigré, c'est dans le nord-est de l'Éthiopie. Marius Mouhonga pour les détails.
Selon Mohamed Hussein, un responsable de l'Agence nationale de protection civile dans la région d'Afar, des violents combats se poursuivent. Près de 70 000 personnes directement affectées se sont déplacées et plus de 20 civils ont été tués. Selon lui, cette opération d'une grande ampleur répond à des attaques contre des camps de l'armée fédérale ordonnées par le Front de libération du peuple du Tigré. Il a ajouté que les forces rebelles ont traversé la frontière avec la région d'Afar et ont attaqué des communautés pastorales innocentes. En novembre 2020, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale au Tigré pour destituer les autorités régionales dissidentes. Il a proclamé la victoire, mais les combats ont continué. Le 28 juin, les forces rebelles ont repris Mekele, la capitale régionale, puis une grande partie du Tigré. Dimanche, les forces rebelles ont affirmé avoir mené des opérations limitées visant des forces gouvernementales dans la région d'Afar, ouvrant un nouveau front dans leur lutte contre le gouvernement fédéral.
L'armée française a neutralisé deux responsables du groupe État islamique au Grand Sahara la nuit dernière dans la région de Ménaka, dans le nord-est du Mali, annonce Florence Parly, la ministre française des armées. Selon elle, l'opération a été menée en coordination avec l'armée américaine contre un camp de son groupe djihadiste et l'identité des deux responsables neutralisés est en cours de confirmation. Dans l'est du Burkina Faso, un soldat a été tué et 2 autres blessés hier par un engin explosif artisanal, ce qui porte à 4 le nombre de militaires tués dans des attaques similaires en une semaine. Vendredi, 3 soldats et un supplétif civil de l'armée ont été tués par 2 engins explosifs improvisés dans le nord du pays. Les hommes armés qui ont enlevé début juillet 121 adolescents dans un lycée du nord-ouest du Nigeria ont relâché 3 d'entre eux pour des raisons médicales, a affirmé la police locale. Le 5 juillet dernier, des hommes armés ont envahi les dortoirs du lycée Baptiste Bethel, situé à Chikun, dans l'état de Kaduna, avant de kidnapper ses pensionnaires âgés entre 10 et 19 ans. Cette attaque est la dernière d'une série d'enlèvements de masse d'enfants et d'étudiants dans le nord-ouest du Nigeria. À Madagascar, la justice et le gouvernement ont annoncé qu'un projet d'assassinat du président André Ajoël a été déjoué. 6 personnes ont été arrêtées, dont 2 Français. Les détails avec Mohamedou Oumfa.
La procureure générale auprès de la cour d'appel d'Antananarivo, Bertine Razafia-Rivoni, a déclaré mercredi soir que plusieurs ressortissants étrangers et malgaches ont été interpellés mardi dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État. Ces individus ont échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation de diverses personnalités malgaches dont le chef de l'État a affirmé la procureure sans autre précision. Le ministre de la Sécurité publique précise que 6 personnes sont arrêtées dans le cadre de cette affaire, dont un étranger, 2 binationaux et 3 malgaches. Il ajoute que la police avait des renseignements sur cette affaire depuis plusieurs mois. Des armes et de l'argent ont été saisis lors de ces interpellations qui ont eu lieu au même moment, mais dans des endroits différents. Il y a aussi des documents officiels qui prouvent leur implication, a-t-il affirmé. L'opposition a condamné toute tentative d'assassinat, que ce soit contre les dirigeants ou quiconque. Il ne faut pas non plus profiter de cette situation pour mettre à mal la démocratie à Madagascar, a mis en garde Rivo Rakotovao, ancien président par intérim.
Le principal parti d'opposition en Tanzanie a déclaré que son leader Freeman Mbowe et les autres membres de Chadema arrêtés hier matin à Mwanza pourraient être poursuivis pour terrorisme. Nathalie Barge pour plus de précision.
La police a perquisitionné la maison de Freeman Mbowe et saisi son ordinateur et d'autres équipements. Selon le parti Chadema qui affirme sur Twitter que M. Mbowe et les autres militants seraient poursuivis pour terrorisme. La police régionale a dit devant la presse que l'opposant était au commissariat central de Dar es Salaam et qu'il serait renvoyé à Mwanza. L'opposition avait appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles alors que les manifestations sont interdites dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Amnesty International a qualifié d'arbitraire ces arrestations et les États-Unis ont exprimé leur inquiétude. Dans la foulée des élections d'octobre 2020, au moins 150 membres de l'opposition qui contestaient les résultats avaient été arrêtés. Depuis son investiture, la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan s'est dite prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales.
L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, emprisonné pour outrage à la justice, a pu sortir brièvement de prison pour se rendre aux obsèques de son frère grâce à une permission exceptionnelle de sortie. En tant que détenu à courte peine et classé à faible risque, la demande de congé pour raison familiale présentée par M. Zuma, 79 ans, a été approuvée, avait annoncé les services pénitentiaires. Les violences qui ont secoué l'Afrique du Sud mi-juillet ont fait 337 morts, a annoncé le gouvernement. La marine tunisienne a secouru au large de Zarzis et dans le sud 166 migrants originaires de plusieurs pays africains partis de Libye. 16 personnes sans vie ont été retrouvées sur le bateau qui les transportait, a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense, Mohamed Zekri. Plus de 200 migrants provenant d'Afrique subsaharienne ont réussi ce matin à franchir la haute clôture séparant l'enclave espagnole de Mélida et le Maroc. C'est l'une des arrivées les plus massives de ces dernières années, ont indiqué les autorités espagnoles. Cette arrivée se produit un peu plus de deux mois après une vague migratoire inédite vers Ceuta, l'autre enclave espagnole dans le nord du Maroc.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Arrogance et manque de respect sont les termes vifs utilisés par la Chine pour critiquer la demande de l'OMS de poursuivre son enquête sur les origines du Covid-19 et a démenti encore une fois la théorie d'une fuite de laboratoire. Claire Morigibourg.
Plus d'un an et demi après le début de la pandémie, les scientifiques peinent encore à trouver son origine. Les premiers malades ont été identifiés fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan. Pékin n'admet pas pour autant que le coronavirus soit d'origine chinoise. Les autorités chinoises combattent farouchement la théorie selon laquelle le Covid-19 proviendrait d'une fuite d'un de ses laboratoires, en particulier de ceux de l'Institut de virologie de Wuhan, qui a été pointé du doigt par l'ancienne administration Trump. La semaine dernière, le chef de l'OMS a demandé un audit des laboratoires dans les régions où les premiers cas de coronavirus ont été identifiés. Cette proposition est un manque de respect, selon le vice-ministre chinois de la Santé, qui a assuré que l'Institut de virologie de Wuhan n'a jamais mené de recherche sur les coronavirus. La Chine a critiqué à son tour un manque de transparence des États-Unis, pointant du doigt le laboratoire de recherche contre le bioterrorisme de Fort Detrick, près de Washington, comme étant à l'origine du Covid-19. La controverse risque d'être au menu des discussions qu'aura à partir de dimanche la vice-secrétaire d'État, Wendy Sherman, la plus haute responsable américaine à se rendre en Chine depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche.
La Tunisie, qui a peiné à trouver les doses de vaccins nécessaires, enregistre aujourd'hui l'un des pires taux de mortalité liés au coronavirus au monde. L'hôpital de la station balnéaire de Sousse s'est trouvé quasiment à court d'oxygène. La catastrophe ne viendra pas de l'afflux de patients, mais de l'épuisement des soignants, estime le docteur Zied Mesgar, chef des urgences à Sousse. L'annonce mercredi du chef du gouvernement Hichem Mechichi indiquant que le personnel hospitalier ne pourrait prendre aucun congé a suscité la colère parmi des soignants déjà à bout. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est le moment de suivre votre actualité économique. Ce soir, Nanit Sylvani Talani vous présente la Minute Éco.
La Banque mondiale va financer des projets de développement au Madagascar à hauteur de 490 millions de dollars. Le premier projet de 100 millions de dollars est un don qui servira à acquérir des vaccins et à renforcer les systèmes de santé. Un autre don à titre d'urgence de 40 millions de dollars va financer des projets d'agriculture durable et innovants. Puis 150 millions de dollars iront vers les secteurs porteurs de croissance, le tourisme, l'agribusiness et le numérique, et 200 millions iront à l'entretien de 1200 km de route. En Afrique du Sud, plus de 40 000 commerces ont été pillés ou incendiés dans le KwaZulu-Natal lors des violences meurtrières qui ont suivi l'emprisonnement de l'ex-président Jacob Zuma. La ministre des Petites Entreprises, Kumbudzo Tsaveni, affirme que les dégâts matériels dans cette seule province sont estimés à environ 1,2 milliard d'euros. L'étendue des dégâts dans tout le pays reste encore à déterminer. Pour terminer, ici aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de manière attendue la semaine dernière, malgré l'espoir d'une forte reprise du marché du travail à l'approche de l'automne. Les demandes initiales d'assurance chômage se sont établies à 419 000 contre une prévision de 350 000, a rapporté ce jeudi le département du travail. C'est le chiffre le plus élevé depuis le 15 mai. Toutefois, l'économie américaine a créé 850 000 emplois en juin et 583 000 en mai.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Comme d'habitude, Yacouba Ouédraogo avec nous. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Finalement, la Guinée sera présente aux Jeux Olympiques. Le pays qui doit envoyer une délégation de 5 athlètes à Tokyo avait annoncé hier y renoncer à cause du Covid-19. L'annonce a été faite dans un communiqué par le ministre des Sports, Sanoussi Bantama Sow.
Donc c'est avec beaucoup de joie que je profite de votre antenne pour annoncer la participation de la Guinée aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Après avoir eu l'assurance des autorités japonaises et de l'ambassade de Guinée au Japon, rassurer que toutes les dispositions sanitaires seront prises pour protéger la délégation guinéenne.
Le ministre Sanoussi Bantama Sow a écarté des problèmes financiers allégués pour justifier le renoncement de la Guinée en rapport avec des rumeurs de surfacturation.
On n'ose pas surfacturer, surtout que le président Alpha Condé a dit de gouverner la Guinée autrement. Et n'oubliez pas que cette délégation comprend 19 personnes. Une délégation de foot comprend au moins 40 personnes. Donc comment on peut être capable de faire voyager plusieurs fois dans l'année une délégation qui comprend plus de 40 personnes et être incapable de faire voyager un groupe de 19 personnes. Donc ça n'a rien à voir au problème d'argent.
Sanoussi Bantama Sow, ministre guinéen des Sports. En attendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques demain à Tokyo, les hostilités ont commencé en football. Bagassi Koura, les trois représentants africains, ont fait leur première apparition.
Oui, chez les hommes, la Côte d'Ivoire a réussi son entrée en battant l'Arabie Saoudite 2-1 dans le groupe D. Un but contre son camp d'Al-Ami et un autre de Franck Kessié ont permis aux éléphants de l'emporter. Dans le groupe C, l'Égypte a fait match nul 0-0 face à l'Espagne. Défaite d'entrée par contre pour l'Afrique du Sud, battue 1-0 par le pays hôte, le Japon. Le Mexique a corrigé la France 4-1. L'Australie a battu l'Argentine 2-0. Le Brésil a donné une leçon à l'Allemagne 4-2. Hier, chez les dames, deux buts complètement ratés pour la Zambie. Seule représentante africaine au tournoi féminin, corrigée par les Pays-Bas, 10-3. La Suède a écrasé les Américaines 3-0. Et l'Australie a battu la Nouvelle-Zélande 2-1.
Merci Bagassi. Chris Middleton et Drew Holiday, sacré champion NBA mardi avec Milwaukee, et Devin Booker, finaliste malheureux avec Phoenix, vont rejoindre Team USA samedi à la veille de son entrée en lice contre la France aux Jeux de Tokyo. Ce trio qui ne manque certes pas de rythme après une finale NBA conclue en 6 matchs intenses n'a pas participé à la préparation de l'équipe des États-Unis. L'entraîneur Greg Popovich devrait composer avec une rotation à 9 joueurs voire 8, sachant que l'arrière Zach LaVine, bloqué aux États-Unis afin de se soumettre au protocole Covid, n'a rejoint ses coéquipiers à Tokyo que ce jeudi.
C'était les sports préparés par Yacouba Ouédraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur Vio Afrique. Eric Manirakis a de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Bénin, en 2019, les députés ont voté une loi permettant aux femmes d'être placées à des postes de responsabilité. À l'époque, cette loi a été saluée par les organisations de défense des droits des femmes. Mais 2 ans après, le constat est amer et les femmes ont du mal à trouver leur place dans le leadership politique. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Les femmes béninoises ont encore du mal à trouver la voie qui mène vers les postes décisionnels. Sur le plan politique, le chemin paraît encore long, même si par l'entremise d'une réforme électorale, la chance leur est donnée de se positionner. Judith Glidia est membre du Bloc républicain, l'un des partis proches du pouvoir.
C'est un geste très fort et c'est un grand pas. C'est le début d'une révolution, c'est la concrétisation déjà d'une révolution. Nous remercions vraiment le chef de l'État, c'est un homme de parole, nous avons confiance en lui, nous savons qu'on va y arriver et que la femme sera célébrée comme cela se doit.
Une chose est de voter une loi qui donne une place prépondérante à la femme au sein des partis politiques et l'autre chose est qu'elles arrivent à dépasser les pesanteurs socioculturelles pour s'impliquer réellement. Pour Marielle Dégoué, politique et membre de la société civile, il faut que les femmes prennent conscience du rôle qui leur revient dans la gestion de la cité.
Pour nous, l'absence des femmes aux instances de décision, c'est beaucoup plus le manque d'implication dans les initiatives. Vous savez, les femmes n'aiment pas faire de la politique. Lorsqu'il est question de politique, elles se préfèrent toujours en dessous. Il faut que les hommes soient en avant et puis elles derrière. C'est normal. Lorsque l'on sait aussi que les réunions politiques sont des réunions nocturnes, les femmes devant être à la maison, mais nous faisons partie de ces personnes qui continuent de croire que ces petites raisons-là ne devraient pas être des motifs de retrait des femmes au niveau des instances parce que la compétence, il y en a au sein des femmes.
Dans le milieu professionnel, on est bien loin de la mobilisation escomptée. Les hommes ont encore du mal à accepter et recevoir des ordres venant d'une femme. Sénalia Glago est rédactrice en chef dans une radio privée de la place. Pour elle, le combat est quotidien.
Et ce n'est pas facile déjà pour les hommes de se faire accepter par toute une rédaction composée d'hommes et de femmes. Et ça l'est encore moins pour des femmes, mais on gère. Que les hommes grand âge déjà ont du mal à accepter des femmes journalistes, des femmes dans le métier, parce qu'on s'est fait des stéréotypes, on s'est fait des clichés, et on s'est dit qu'une femme dans ce monde-là, c'est une femme débauchée. Qu'une femme n'accepte être une femme débauchée.
Pour Michel Zopli, ingénieur agronome de profession, les femmes n'ont rien à faire au poste de décision. Le Bénin est une société traditionnelle et la place de la femme se trouve à la maison, auprès des enfants qu'elle doit éduquer.
Très souvent, elles n'ont pas le temps, elles ne sont pas à la maison, elle désette le foyer. Alors, en réalité, la femme devrait rester beaucoup plus à la maison, s'occuper des enfants. Elles sont beaucoup plus tentées par les avances pour ce qui concerne leur métier.
Pourtant, selon le sociologue Moulero Amouzouvi, avec les défis du monde actuel, les gouvernants ont le devoir de donner aux femmes leur chance de prouver ce dont elles sont capables.
Responsabiliser la femme aujourd'hui est le seul moyen pour elle de s'imposer à l'homme. C'est un problème purement humain, c'est un problème purement social et il faut responsabiliser la femme.
Cela fait des décennies qu'on se bat au Bénin pour que les femmes puissent avoir plus de chance pour accéder aux postes de responsabilité. Des initiatives ont été portées, mais elles se sont heurtées aux pesanteurs socioculturelles qui parviennent encore aujourd'hui à avoir le dernier mot. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dakar a enregistré des pluies, même si les quantités ne sont pas encore trop importantes. Au Sénégal, l'hivernage rime avec l'avènement des moustiques et de nombreux cas de paludisme. Mais avec la situation sanitaire et surtout marquée par la pandémie de Covid-19, les mesures préventives contre le palud, dont la principale est l'utilisation de moustiquaires imprégnés, ne font pas toujours recette. Le reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Au-delà des inondations en banlieue, l'hivernage à Dakar est marqué par une recrudescence des maladies tropicales, dont la plus récurrente reste le paludisme. Mais aujourd'hui, les campagnes de sensibilisation sont toutes concentrées sur le Covid-19. Malgré tout, les autorités sanitaires assurent que des dispositions sont prises pour que le paludisme ne fasse pas de ravages. Docteur Momodou Lamine Diouf, membre de la cellule de lutte contre le paludisme, rappelle que la moustiquaire imprégnée est la plus efficace des méthodes préventives.
L'OMS le dit et tout le monde l'accepte aujourd'hui, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour protéger les individus et les populations de façon globale contre le paludisme. L'OMS le rappelle aussi bien que si on réussit à avoir 80% de couverture en moustiquaire imprégnée dans les populations, on peut espérer réduire d'au moins 25% donc la charge de mortalité et de morbidité au niveau de la population. Donc vous pensez bien que c'est un outil quand même d'une importance capitale qu'aucun pays ne devrait négliger.
Les moustiquaires sont donc essentiels d'après ce chef de famille qui a requis l'anonymat et qui avoue quand même avoir beaucoup de mal à dormir sous une moustiquaire.
C'est forcé, il y a trop de moustiquaires, c'est la période. Sans moustiquaire, on ne peut pas dormir. Mais moi, personnellement, si je dors dans une moustiquaire, je perds le sommeil. Mais c'est un mal nécessaire, il faut le faire pour notre bien.
C'est pareil pour Antasek, une jeune dame qui habite la zone de captage à Grand Yoff. Elle reconnaît que la moustiquaire est indispensable pour bien dormir, mais parfois, elle prend le risque de s'en passer pour être plus à l'aise.
Pour être honnête, des fois je dors sous une moustiquaire imprégnée, d'autres fois non. Ici à la zone de captage, il y a le bassin qui est un immense nid de moustiques. Donc pratiquement toute l'année, on vit au rythme des moustiquaires et des grillages de protection. Mais à la longue, ça devient lassant et on néglige de plus en plus l'utilité des mesures préventives. Mais avec l'hivernage et l'invasion des moustiques, sans moustiquaire imprégnée, on tombe malade. Donc même si je refuse parfois de les utiliser, ma mère nous l'impose.
Face au paludisme, il est inutile de prendre des risques. D'après Sadio Dramé, une dame qui habite Guédiouaï dans la banlieue de Dakar, à côté de la bande de Filao, une zone connue pour être le bastion des moustiques.
Avoir la bande de Filao et un contingent de moustiques à côté me suffisent comme motivation pour dormir sous une moustiquaire imprégnée. Le confort du sommeil ne vaut pas plus que celle d'être en bonne santé, donc autant moi que toute la famille, on dort en respectant les mesures préventives, surtout qu'en ce moment, on enregistre de plus en plus de cas de paludisme. On parle beaucoup de Covid, mais le paludisme aussi est dangereux et dans certaines zones, elle peut faire autant de dégâts, sinon plus que le Covid. Il faut en plus être conscient et éviter les contacts avec les nombreux moustiques.
La communication de masse qui entoure la pandémie du Covid-19 noie les actions autour du paludisme en cette période hivernale. Cependant, les autorités sanitaires assurent qu'elles ne négligent pas les dangers de cette maladie tropicale et conseillent aux populations d'utiliser les moustiquaires imprégnés. Mais ces dernières sont toujours divisées sur son utilité et son utilisation. Sédina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
La participation du Congo-Brazzaville se limite à 3 athlètes que le public ne donne pas assez de chances pour gagner une médaille. Sur le plan de la compétition elle-même, les Brazzavillois affirmaient que leur pays n'y brillait pas vraiment et les Jeux Olympiques ne leur parlent pas. Reportage de Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Les 3 athlètes qui représentent le Congo aux Jeux Olympiques de Tokyo sont de très moyenne taille. Nathan Shangoy, aligné au 100 mètres, a bénéficié d'une bourse d'entraînement au Bénin, tandis que Anthony Afumba, pour les 400 mètres, réside en France. À eux, il faut ajouter Stéphane Samila à la natation qui s'entraîne sur place au pays. Achille Zikutoto, qui a suivi les 3 athlètes, ne leur donne aucune chance lors de ces compétitions.
Pour le CIO, pour se qualifier, il faut atteindre les minima. Or, dans toutes les disciplines confondues, le Congo n'a pas atteint les minima. En tout cas, je ne crois pas au miracle. Certainement une amélioration peut-être des performances du Congo avec Natacha déjà qui, lors des championnats du monde au Qatar il y a 4 ans, était sortie 13e au 100 mètres, médaille. En tout cas, je n'aimerais pas être le chat noir justement de la délégation congolaise.
Le Congo n'a jamais glané une seule médaille aux Jeux Olympiques. Sa meilleure performance demeure cette 4e place obtenue en 2016.
au lancer de poids grâce à Franck Elema qui n'a pas été retenu cette fois-ci. D'où le scepticisme des Brazzavillois.
Quand on regarde les résultats que ces athlètes ont produits au niveau africain d'abord, certes, il y en a une qui est là, qui est athlète, qui fait les 100 et les 200 mètres, qui a gagné les médailles d'or au niveau de la zone 4, mais ça ne suffit pas. À l'issue des Jeux Olympiques, quand vous êtes présent, quand vous réalisez des bons résultats, il y a un Brésilien qui peut se dire, tiens, le Congo, ça se trouve où? Et il va aller faire des recherches pour justement connaître ce qui se passe au Congo, c'est un pays qui se trouve dans quel continent, ainsi de suite. Ça ne pourra pas être le cas parce que le Congo est là-bas en tourisme.
Les Jeux Olympiques ne suscitent pas chez nous au Congo le même appétit, le même engouement, la même ferveur que les Jeux africains, par exemple. Vous savez, nous les avons organisés à deux reprises, en 1965 et en 2015 tout récemment. On a eu par exemple un champion du saut en longueur, si je ne me trompe pas, Henri Elendé. Aujourd'hui on parle de lui, mais c'était à l'occasion des Jeux africains. Mais les Jeux olympiques, on n'a pas de grands souvenirs à ma connaissance.
La délégation congolaise est conduite par le ministre des Sports Hugues Londélé, invité du Comité international olympique. Il faut ajouter sa suite, ainsi que les entraîneurs. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Le président Joe Biden a exprimé mercredi sa frustration aiguë face au ralentissement du taux de vaccination contre le Covid-19 aux États-Unis. Il a dit qu'il était extrêmement important pour les Américains d'intensifier et de se faire vacciner contre le virus, alors qu'il réapparaît. Les précisions de John Lindon.
C'était une sorte de réunion publique retransmise en direct par la chaîne de télévision CNN depuis la mairie de Cincinnati dans l'Ohio. Joe Biden a laissé entendre que la crise de santé publique s'est largement transformée en un sort pour les non-vaccinés, car la propagation du variant Delta a entraîné une augmentation des infections dans le pays. Nous avons une pandémie pour ceux qui n'ont pas été vaccinés. C'est aussi basique, aussi simple a-t-il déclaré. Le président américain a affiché son exaspération devant le fait que tant d'Américains éligibles sont toujours réticents à se faire vacciner. Si vous êtes vacciné, vous ne serez pas hospitalisé, vous ne serez pas admis aux urgences et vous ne mourrez pas, a-t-il déclaré. Il est donc extrêmement important que nous agissions tous comme des Américains qui se soucient de nos compatriotes américains. Lors de ce forum, Joe Biden a aussi révélé ce que les leaders du monde lui demandent à propos de l'Amérique.
J'ai beaucoup d'expérience à l'international. Je veux dire, bonne ou mauvaise, j'ai présidé le comité de relations étrangères. J'ai été profondément impliqué. J'ai fait la sécurité nationale pour l'administration avec Barack. Mais le reste du monde se pose des questions sur nous. Ceux d'entre vous qui voyagent à l'étranger, ce n'est pas une blague. Pas une blague. Vous avez demandé, vous savez, quand je suis allé à ce G7 avec toutes les grandes démocraties, je suis entré et j'en connais beaucoup à cause de mon rôle dans le passé. Ils sont entrés et j'ai dit que l'Amérique était de retour. Êtes-vous vraiment de retour, se demandent certains. Je veux dire, comment pouvez-nous te croire, Joe? Mais pour moi, la question est le pays se réunira-t-il jamais?
Autre sujet évoqué, les relations entre la Chine et les États-Unis et surtout la vision que le président chinois a du monde de demain et de la démocratie.
Xi Jinping en Chine.
Et je parlais à Xi est en Chine. Oh, je sais bien que nous ne sommes pas d'accord et que vraiment un dur à cuire. Il croit vraiment que le 21e siècle sera déterminé par les oligarchies. Ce n'est pas une blague. Les démocraties ne peuvent pas fonctionner au 21e siècle. Leur argument est que les choses évoluent si rapidement. Si rapidement que vous ne pouvez pas rassembler une nation qui est divisée pour obtenir un consensus pour agir rapidement. Pour cet autocrate et autocratie, j'ai eu une longue rencontre avec Poutine et je le connais bien. Ces gars à Paris, en fait, que je ne plaisante pas, sur les autocraties, la démocratie doit se lever et démontrer qu'il faut faire quelque chose.
Pendant près de 80 minutes, Joe Biden a répondu à des questions sur de nombreux problèmes, notamment son plan d'infrastructure, le droit de vote des minorités et la composition de la commission du Congrès qui doit enquêter sur l'assaut du 6 janvier au Capitole.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Joselle de Morissin, George Léonard Sagnon, Michel Claire-Joseph et Lionel Manila Galima. À la présentation, vous étiez en compagnie d'Eric Maniakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine. We'll be right back.